Paul disait lui-même, nous tendons vers la perfection. Amen. Voilà, donc nous allons parler, je vais commencer ce matin, déjà parler de la vision de l'Église. Voilà. Mais quand on parle de la vision de l'Église, vous allez comprendre que toi et moi, chacun d'entre nous, individuellement, nous avons besoin d'une vision. D'accord ? Que ce soit sur les plans personnels, le couple ou la famille. D'accord ? Nous, les chrétiens, puisque nous avons accepté Jésus dans notre vie, on doit savoir pourquoi nous sommes sauvés. Quel est le plan de Dieu pour nous, pour moi, déjà, à titre personnel ? Ensuite, le couple et la famille. Quelle est ma direction ? Que dois-je faire pendant ces années qui me restent encore ? Si je suis jeune, toute la vie est devant moi. Mais la vie va passer tellement vite qu'il ne faut jamais tarder. J'étais un bébé. Et quand je vous dis ça souvent, on est tellement heureux, nous, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Et puis je vois tous ces petits-enfants qui courent, qui crient, qui nous fatiguent quelquefois un peu, parce que, bon, vous comprenez, avec l'âge, on décroche un peu. Mais quelle joie de voir tous ces petits bébés. Et en même temps, je les vois en culte avec les parents. Et voilà, donc c'est tellement beau. Mais sachez que ces petits bébés, un jour, deviendront comme toi et moi. Ils vont voir Claudio ton âge. T'es sûr? Tu crois? Et ils vont avoir ton âge, Arnaud. Et puis ils vont voir certains parmi eux, ils vont voir la cheveux gris, comme André et moi. Ah, la vie, ça passe tellement vite. Mais nous avons besoin déjà d'une vision pour notre couple, pour notre famille. Parce que vous savez, l'Église, c'est toi et moi. Hein, d'accord ? L'Église, c'est vous et moi. L'Église, c'est nous. Ce n'est pas le bâtiment. D'accord ? Et l'Église commence, vous savez où ? Est-ce que l'Église commence là ce matin ? Est-ce que l'Église a commencé là parce que vous êtes arrivés ? Certains ont déjà prié là-bas à 8h30, d'autres à 9h, 9h30 pour la louange, etc. Et d'autres à 10h, et d'autres. Ah ben, l'Église commence dans ton couple, dans ta famille. L'Église commence à la maison. Et vous savez, soyez pas dessus. Hein. La qualité de l'Église dépend de votre vie chez vous à la maison. J'ai toujours dit, telle famille, telle couple, telle famille, telle l'Église. Oh, oh. Ah ben, c'est ça. Il y aura le feu ici, la joie, si vous avez le feu, si vous avez la joie, si vous êtes positive, chez vous, à la maison, dans votre couple. C'est bon ? Parce que vous venez où nous venons ici avec nos fardons, avec nos difficultés, avec une pensée négative, où nous venons avec une bénédiction. Bénir Dieu avant tout par notre louange, on est d'accord, c'est la priorité, et bénir aussi les uns les autres. Alors, est-ce que tu peux faire juste un petit geste maintenant, et puis tu vas te tourner vers ton voisin ou ta voisine à droite et à gauche, et tu lui dis, sois béni, sois béni. Sois béni. Quelle joie d'être ensemble. C'est tout ce qui est positif, vous comprenez? Ah, tu es quelqu'un qui est sauvé par Jésus. Quelle joie. Ben, c'est tout ce qui est positif. Vous comprenez? Très bien, l'Église, la vision de l'Église. Depuis des années, nous travaillons avec une église, avec une vision, même si on n'a pas trop parlé de la vision, voilà, parce que on est engagé dans l'activité, etc. Mais la parole de Dieu, souligne donc l'importance d'avoir une vision. Et on verra en fonction, en fur et à mesure, pendant un certain temps, même ceux qui vont prêcher, on va se mettre d'accord pour que nous puissions continuer à parler sous la vision pendant plusieurs dimanches. J'ai parlé de ça avec Fred aussi, pour que ce soit vraiment, vraiment clair. La parole de Dieu nous souligne vraiment une importance d'avoir une vision. Regardez, on va prendre juste une référence, deux références, Proverbe 29, verset 18. Donc, il y a plusieurs traductions, d'accord? Plusieurs traductions. Si nous allons donc prendre plusieurs traductions, ici, vous avez voilà une certaine expression. Quand il n'y a pas de révélation, d'autres traductions disent quand il n'y a pas de vision, le peuple et son frein, c'est-à-dire se laisse aller. Ça va dans tous les sens. Et puis d'autres traductions vont dire quand il n'y a pas de vision, le peuple périra. D'accord? C'est la perte. S'il n'y a pas de vision, le peuple périra. Donc il est question, la Bible nous parle de la vision. Ensuite, Habacuc, chapitre 2, verset 2. Nous parle avoir une vision aussi. L'Éternel m'adressa la parole et il dit écris la prophétie ou écris la vision, parce que la prophétie c'est quelque chose prophétique, quelque chose qui va se passer, quelque chose que nous ne maîtrisons pas très bien, mais quelque chose qui est dans le qui représente l'avenir. Donc écris la vision, écris la prophétie, grave. Vous savez ce que ça veut dire, graver, hein? On peut graver sur le marbre, sur les pierres. Voilà. Puis quand on grave sur le marbre ou sur la pierre, on n'efface pas tout simplement avec une éponge, parce que c'est gravé. Vous avez compris, gravé. Si vous voulez étudier le mot gravé avec le dictionnaire, ce n'est pas interdit. Grave là sur le tablette. Enfin, qu'on la lise. Pour faire quoi? Courir vers la vision. Courir. Reste pas sur place. Celui qui n'avance pas recule dans tous les domaines. On est d'accord? Voilà. Avoir une vision, donc merci, avoir une vision, c'est les buts vers lesquels nous nous dirigeons. Allô? Avoir une vision, c'est les buts vers lesquels je me dirige dans les domaines spirituels, au niveau de l'Église, dans les domaines spirituels. Et la même chose, en tant qu'un chrétien tout seul, un couple ou une famille. Il y a un but devant moi. Ne pas avoir la vision, des visions, c'est monter dans un avion qui n'a pas de destination. Ou monter dans un bus où tu ne connais pas la destination. Ne pas avoir, je répète, ne pas avoir des visions, c'est monter dans un avion qui n'a pas de destination. Tu tournes en rond. D'accord? Alors, nous, quand on voyage, on se retrouve dans différents pays. Et l'avantage, c'est que Christiane, elle se débrouille un peu en anglais. Partout, avec l'anglais, on arrive à avancer. Et, par exemple, aux États-Unis, c'est pénible. Pardon, l'américaine. C'est parce que voilà, on nous annonce que comment ils disent là, le gate, ouais, voilà, 53. Alors nous sommes là et nous écoutons et nous attendons, l'heure, etc. Parce que nous partirons de cette porte-là. Mais quelquefois, un quart d'heure avant, on nous dit, Voilà, nous annulons l'entrée 53, c'est 18. Et certains parlent bien, donc on essaye de comprendre, donc on comprend. Et puis quelquefois, je regarde la Christiane et elle m'a dit, j'ai pas compris. Parce qu'on parle tellement vite, on n'a pas compris. Et puis on voit les gens, tous les gens, ça court, très vite, là-bas. Et nous, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, moi, je suis toujours stressé. Je dis, démon. Quelquefois, j'arrive là et je demande, et je dis, monsieur, il ne me comprend pas. Il est gêné parce qu'il ne comprend pas le français. Puis avec 10 mots anglais que je connais, ça ne marche pas, c'est pas assez. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'on ne veut pas se tromper. Notre destination, c'est quoi? C'est Paris. Je ne vais pas me retrouver dans un avion sans la destination. Je ne vais pas me trouver à Pékin si ma destination, c'est Paris ou Bruxelles, puisque nous travaillons plutôt avec ces deux aéroports. Dans les domaines spirituels, la même chose. Si tu es chrétien, si je suis chrétien, avant tout, nous sommes tous chrétiens au même niveau. Eh bien, si nous ne savons pas quelle est la vision de notre Église, ben, c'est comme si que tu étais dans un avion sans la destination. C'est aussi simple. Alors, pour atteindre la vision, il nous faut des objectifs ou des départements, ou peu importe ce sont les expressions tout simplement. Mais il faut une stratégie d'action pour pouvoir atteindre la vision. Alors, je m'explique. Quand on s'est mariés, nous, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, d'accord, la vie est devant moi, je suis jeune. Je suis marié à 24 ans, la vie est devant moi, devant nous. Et finalement, quelle est la vision, quel est le but de ma vie? Allô? Est-ce que c'est juste d'être diplômé, avoir beaucoup d'argent? D'accord, ça fait partie de la vie, on est d'accord? Et moi, les jeunes, les enfants, j'ai toujours encouragé. Allez, faites les études, faites maximum. Ça va vous servir, même si c'est difficile. On est d'accord? D'accord. Donc, vous voyez, nous, la première chose, c'était notre vision, la vision de mon couple, c'est réussir ma vie. Il faut que je termine ma vie, qui va passer très vite, avec ma femme, avec laquelle je me suis marié. Vous comprenez? C'est la vision. Je suis chrétien. J'étais chrétien. Quand on est chrétien, quand on a Jésus avec nous, nous pouvons nous organiser, nous pouvons mettre toute une stratégie d'action. Et ceux qui ont donné leur vie à Jésus plus tard, il y a toute une vie derrière, il faut commencer au moment où tu as donné ta vie à Jésus. On est d'accord? Donc, pas de culpabilité. Et puis, mon objectif, c'était aussi pour que mon épouse, pour que Christiane, elle puisse terminer avec moi. C'est réussir mon couple, les enfants, réussir avec mes enfants, pour que mes enfants, avant tout, puissent servir le Seigneur. Et ça va plus loin. Tant pis pour mes enfants et mes beaux-enfants. Mais voilà ma vision pour que mes petits-enfants, Dominique, soit au Seigneur. Mais on ne décide pas pour les petits-enfants. Hein. Ça peut aller trop loin. Hein. Il y a une onction, la présence de Dieu, il y a un héritage spirituel qui coule de génération en génération. Allô? Alors, j'étais jeune. Bon, vous croyez que j'étais jeune, hein? Jeune gamin, ado. Et j'entendais la prière de ma mère. Et ma mère, la nuit, priait, Seigneur. Voilà, je te demande pour que tu puisses bénir. Voilà, pour nous, elle priait pour nous, pour nous, pour nous. Et mon père, un jour, il prie, il dit, Seigneur, il était prédicateur, un prédicateur percutant dans les églises clandestines, etc. Dieu s'est servi de lui. Il est venu ici en France, il y a déjà longtemps, hein, il prêchait dans les églises, c'est pour ça que je suis là en France. Et il a prié, et on était huit enfants, quatre filles, quatre garçons. Donc il a bien travaillé, le père. Il a connu la guerre. Et mon père, il dit, Seigneur, donne-moi tous les enfants. Fais en sorte que tous mes huit enfants soient chrétiens. Seigneur, et un jour, j'ai entendu cette prière, c'était pour moi catastrophique. Il dit comme ça. Seigneur, si jamais j'ai un enfant qui ne te servira pas, j'arrête de prêcher. Oh, le petit gamin donne des conditions à Dieu. Un paysan, hein, mon père c'était un paysan. Pas beaucoup d'instructions, il savait juste écrire. C'est comme ça. Et moi je dis, ça ne marchera pas. Et il continue de prier, et dans mon cœur j'ai dit, de toute manière, ça ne va pas marcher. Tu vas devoir arrêter de prêcher, parce que moi, je ne serai jamais chrétien. Je rigolais dans mon cœur, toi, le vieux père, là. Ah, je l'ai sous-estimé, là. Et regardez ce qui s'est passé. Ah ben, Dieu a touché mon cœur. Il y avait un moment, j'avais 18 ans, je me suis jeté sur lui. Et j'ai dit, papa, excuse-moi, pardon. J'avais de mauvaises pensées contre toi. J'ai commencé à prédire que ça ne marchera pas pour toi. Tu vas devoir arrêter ton ministère parce que moi, je ne serai de toute manière pas chrétien. Vous comprenez ce que je vous dis, ce que je vous dis. Combien c'est important. Voilà, la famille, la prière, savoir où on va. Alors très bien, pour atteindre la vision, il nous faut une stratégie, un objectif clair. Si l'objectif est clair, si les objectifs sont clairs, bibliques, ça nous permettra de concentrer nos efforts, pour pouvoir accomplir un objectif, un département d'être. Et par les moyens de ces objectifs, nous allons pouvoir atteindre la vision. Alors, la vision de notre Église, comment j'ai toujours travaillé, comment nous avons toujours travaillé, c'était gagner une âme parce qu'il faut commencer par la première. Moi, j'étais une âme que Dieu a gagnée. Amen. Sauvée. On est d'accord? Si vous êtes là, c'est parce que Jésus vous a touché, vous a sauvé, vous a transformé. Et vous n'avez pas mérité. Qui peut dire aujourd'hui que oui, j'ai mérité d'être sauvé? Ça va? Nous n'avons pas mérité. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Donc, le fait que moi, je suis sauvé, gracié, libéré, nous avons chanté un chant, libéré, libre, libre de la condamnation du péché, même si nous sommes imparfaits. Voilà, donc, la même chose, je le sais que si tu m'as sauvé, tu peux sauver mes amis, ma famille, mes amis, mes voisins, les gens que je ne connais pas encore. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous étiez meilleur que les autres qui ne connaissent pas encore Jésus? Non. Ça va? Alors, l'Église existe comme une... L'Église, c'est comme une plateforme, voilà. Par les moyens de cette Église, nous pouvons prêcher l'Évangile. Oui, on est là pour se faire du bien. Je ne dis pas, on est bien d'accord, on a besoin d'être fortifié, d'être encouragé, de pouvoir dire bonjour les uns envers les autres, faire une agape, etc. etc. Ça va faire partie de nos objectifs que nous allons parler voilà, aussi plus tard. Donc tout ça, ça fait du bien, oui, d'être ensemble, mais nous avons vraiment une mission à accomplir. Donc gagner une âme, susciter un ministère, le ministère ou égal service, ceux qui servent, ceux qui font quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire, même si on ne maîtrise pas tout, et on peut toujours discuter, parler ensemble. Vous savez, donner un verre d'eau à quelqu'un, c'est servir. Encourager quelqu'un, c'est servir. Voilà, on parle ici des choses aussi, de pouvoir aider les uns les autres, c'est aussi servir. Donc, l'objectif, c'est que nous puissions devenir tous des serviteurs, pour pouvoir servir, parce qu'on nous a servi et nous voulons servir. Amen. Et ensuite, implantation d'une église. Si cette église existe ici, l'année prochaine, ça va faire 10 ans depuis l'inauguration. On va fêter 10 ans. À Waterloo, c'est déjà 30 ans. C'est parce que, voilà, il y avait une vision. Il y avait une vision. Et pour atteindre la vision, bah, il fallait agir. Il fallait passer par des objectifs. D'accord? Alors, comment nous pouvons maintenant mettre en place des objectifs pour atteindre la vision? Alors, je répète, la vision, gagner une âme, il faut commencer par la première, susciter un ministère, et puis ensuite implanter une église. Alors, on va vous montrer donc une image. Donc, un objectif, voilà, un objectif pour atteindre la vision, il nous faut un objectif. Donc, un objectif clair permettra la concentration. Alors, une lumière, hein, suivez bien, une lumière concentrée. Le soleil, d'accord? Le soleil, vous voyez le soleil. Le soleil est clair, on est d'accord? Et tant que le soleil est clair, il n'y a rien qui se passe. Il fait chaud, il fait bon, on est d'accord? Mais regardez ce qui va se passer plus loin. Alors, qu'une lumière, donc je répète, une lumière concentrée a une formidable puissance, concentrée. Alors qu'une lumière diffusée, n'a aucune puissance. Il fait chaud. Par exemple, si nous concentrons la puissance de la lumière, du soleil, à travers une loupe. Ici, il y a Claudio là. Il a compris qu'on peut exploiter la lumière du soleil. D'accord? Donc, nous concentrons la lumière. Si vous avez appris ça, les étudiants peuvent expliquer ça mieux que moi. Voilà, nous mettons une loupe là. Nous pouvons mettre le feu à une feuille, un peu plus loin. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Vous mettez une loupe. On concentre cette lumière. Karine, ça va? Et ensuite, plus tard, plus loin, montre-moi un peu ton sourire. Plus loin, une feuille, elle est percée par les feux. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Essayez, hein? Essayez, il fait chaud maintenant. Dans votre jardin. Mais nous ne pouvons pas mettre les feux à une feuille, si la lumière du soleil n'est pas concentrée. S'il n'y a pas de loupe, s'il n'y a pas Claudio ici, il va faire chaud, mais il n'y aura jamais de feu. Allô? C'est bon? lorsque la lumière est concentrée à un degré bien plus élevé encore, elle peut transpercer un bloc d'acier. Ouh ! Tu crois ? Ah bah, parlez un peu avec les physiciens, ils vont vous expliquer, mais c'est comme ça. Plus élevé, donc, on peut transpercer un bloc d'acier comme un rayon laser. Alors, comment on peut mettre les objectifs en place? Donc, le principe de la concentration, voilà, vous avez compris, et ses objectifs. Donc, à la place de cette loupe, c'est ça, on mettra un objectif, dans le langage spirituel. Bon, c'est compliqué, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Deuxième image. Alors, le principe de la concentration fonctionne aussi dans d'autres domaines. Deuxième. Une vie concentrée et une église concentrée, une église qui concentre tous les efforts, toute l'énergie, le potentiel d'une église, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, une vie concentrée, une église concentrée aura un impact beaucoup plus important que si elle ne l'était pas. Comme un rayon laser. Plus l'église se concentrera, plus elle aura l'impact sur la société, sur les puissances des ténèbres, sur les oppositions et sur les forteresses. Parce que nous sommes devant les combats, devant les difficultés. Nous n'avons pas les combats avec la chair et le sang, on est bien d'accord, mais nous avons les combats avec les puissances des ténèbres. Ils veulent nous détruire, c'est ça leur but. Mais nous aurons l'impact si nous concentrons, voilà, nos efforts. Alors, moi, j'ai trouvé quelqu'un. On peut ajouter, on peut enlever, on peut regrouper encore les objectifs. Donc, pour atteindre la vision, c'est-à-dire pour que l'Église puisse gagner une âme, deuxième, dixième, cinquantième, centième, cinq centièmes, mille, deux mille, d'accord ? Donc, il faut s'organiser. Il faut avoir des objectifs clairs pour pouvoir percer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La priorité plus importante, la Bible nous enseigne que nous sommes appelés avant tout à adorer Dieu. Les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit, en vérité. Amen. De vrais adorateurs sont appelés à adorer Dieu. Voilà, donc il faut travailler dans le sens que je me réveille, je connais ma vision personnelle. Qu'est-ce que je dis? Ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit, quelle est ma première pensée vers Dieu? Est-ce que je ne pense pas à Dieu et puis tout simplement je vais réviser ma prédication et puis ensuite je prépare toujours le café pour Christiane. Donc ça, vous le savez, Christiane, elle a toujours son café. Voilà, dimanche matin, voilà, parce que je me réveille plus tôt. Donc, je lui prépare le café. Quand il n'y a pas de pain, je vais aller chercher le croissant. Parce que je dois réussir. Il faut que mon couple, donc je dois faire quelques petites choses pour la garder avec moi. Sinon, elle ne va pas me gâter. Vous avez compris. Alors, la première chose, je t'adore, Seigneur. Je te loue. Ah! Parce que je suis là. Ça va? Vous avez compris? Quand vous allez vous... Mais avant que tu vas faire le café à ta femme ou à ton mari, bon, ça peut être dans deux sens. Ça t'arrive, tu fais le café à Solange? Comment? Bon, est-ce que tu fais ou non? Ah, donc, c'est bon. Bon, on va lui demander, elle n'est pas là. Mais on te fait confiance. Avant ça, Seigneur, merci parce que je suis là, tu es digne de louange. On est d'accord? D'accord. Voilà. Donc, vous voyez la première chose. Adore. Donc, il faut que tout ce que nous pouvons faire dans le domaine de l'adoration, ça devient un objectif de l'Église. Maintenant, imaginez-vous, il y a des églises où il y a des équilibres. Il y a des églises où il n'y a que l'adoration. On m'a dit quelquefois, j'ai tellement vu des choses, on m'a dit, oh non, quelquefois, il n'y a même pas de prédication. Ça peut arriver à deux cultes l'année, mais si c'est quatre cultes de suite, où il n'y a même pas de parole de Dieu, mais on va chanter, il y a des équilibres. Vous m'avez compris, il y a des équilibres. On ne peut pas travailler parce que la parole de Dieu nous parle aussi de ministère, le service. Donc, l'adoration, tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur, on est bien d'accord. De là, on découvre les objectifs dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ma philosophie. D'accord? C'est clair? La parole de Dieu. Et la vision est découverte aussi dans la parole de Dieu, mais on va parler de ça plus tard. Donc les ministères, le service, etc. Voilà, ces deux objectifs sont tellement importants. L'évangélisation, quelquefois, avec Christian, on se retrouve dans les églises et on nous dit, oh, ben nous, on n'évangélise pas du tout, on fait rien du tout. Il y a la louange forte, les gens sont touchés, etc., etc. D'accord. Mais les fruits sont vraiment minimes, à long terme. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, nous, c'est que le combat spirituel. Il y a des équilibres. Le combat spirituel fait partie de la famille, l'adoration, la prière, le combat spirituel, l'intercession, la proclamation, la prophétie, etc. D'accord ? Donc l'évangélisation fait partie d'un objectif très très important dans l'Église. La communion fraternelle, c'est pas juste c'est parler, échanger quelques mots, mais la communion fraternelle prend la racine dans les baptêmes. Vous comprenez ? Aller prêcher l'évangile, etc. Donc, vous voyez, on découvre les objectifs dans la parole de Dieu. Donc, aller prêcher, baptiser, le baptême, ça veut dire baptiser, c'est appartenir, ça veut dire appartenance. Tu fais une promesse à Dieu que tu lui restes fidèle jusqu'à la fin de ta vie, d'accord? Donc, et tu appartiens à partir de moment ni aux évangéliques, ni aux cathos, ni au protestantisme, mais tu deviens membre d'une famille chrétienne universelle. Amen. Ça dépasse les domaines d'une église locale. Voilà, tu appartiens à la famille de Jésus qui se trouve partout dans le monde entier. Amen. Donc voilà la communion fraternelle, mais on va détailler tout ça. Quelquefois, je vais prendre juste l'adoration. On va parler deux dimanches de l'adoration. Mais c'est juste pour vous donner un peu une idée. Et ensuite, la formation des disciples. Eh ben, vous savez, dans une classe, le prof a du travail au moment où il y a des étudiants. On est bien d'accord ? Imaginez-vous que le prof rentre dans une salle et il n'y a pas d'étudiants. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il sera content, il va dire à personne, je m'en vais à la maison, c'est bon, ça fait un jour de vacances. On est d'accord ? Bon, je caricature un peu, mais c'est ça, hein, Mathieu. Ça. Donc, voilà, il faut les gagner par le moyen de témoignage, d'évangélisation. On les gagne et puis on ne les laisse pas comme ça dans la nature. Qu'est-ce qu'on fait? On les encourage, on les accompagne. Quand c'est un moment, quand c'est possible, il y a des supports, d'études bibliques, de formations. Puis ensuite, on peut, dans des grandes églises, il y a plusieurs niveaux de formation parce qu'on va apporter un enseignement à ceux qui commencent. Ensuite, ceux qui sont baptisés, on va monter le niveau d'enseignement. Et puis ensuite, après, on va monter encore le niveau d'enseignement. On peut avoir 3-4 niveaux d'enseignement parce que nous voulons que le chrétien devienne solide, amen, puissant, tout simplement pour savoir faire face à tous les oppositions, les combats, les attaques diaboliques. C'est pour ça qu'on doit devenir des chrétiens solides, parce que quand l'ennemi arrive, pour qu'on puisse lui dire, Satan, éloigne-toi de moi. Amen. Parce que son objectif, c'est nous de détruire. Très bien, n'oubliez pas, vous voyez le soleil, l'église, il y a un potentiel. Maintenant, si tout le monde, si chacun d'entre nous, vous allez faire ce que vous voulez, c'est pas toujours mauvais en soi, mais si nous allons nous engager à 60 personnes ou même 100 personnes dans 30 activités, nous sommes dispersés. Vous comprenez, il y a la dispersion. Au lieu de la concentration, nous nous dispersons et nous sommes impuissants, pas du tout efficaces. C'est bon, vous me suivez? Voilà, donc, pour que l'Église puisse atteindre la vision que vous connaissez, vous savez, dans cette salle, dans ces bâtiments, parmi vous, il n'y a que Denis qui était là au départ, quand on est venu ici, je pense. Quand je suis venu dans ce bâtiment-là, c'était un hangar, et j'étais tout seul. J'avais mal au dos à l'époque, c'était mois de novembre, je pense, quand je suis venu visiter. Même Christiane ne comprenait pas pourquoi je venais ici, pourquoi je voulais ouvrir cette église-là. Et puis, je me souviens à quelqu'un, une fois, il m'a dit, hey, mais tu vois, Antoine, moi, je m'en vais dans une grande église parce qu'ici, on est juste à 20 personnes. Mais moi, je lui ai dit, mais j'étais tout seul. Mais 20, pour moi, c'est déjà beaucoup. Oh, moi, j'étais tout seul, là, avec un joyeux mobilier. J'ai tremblé, j'avais mal au dos. J'ai dit, Seigneur, comment on va faire? Et Dieu a fait en sorte, parce qu'il y avait des miracles, il y avait une vision d'implanter une église, d'implanter d'autres églises. Plusieurs églises sont sorties de Waterloo. Pourquoi? Parce qu'on avait une vision. Et pour que l'Église puisse atteindre cette vision, il faut que chacun d'entre nous adhère à la vision. Vous savez, moi je ne suis pas formaté par cette Église parce que je suis arrivé à ouvrir une Église, ma formation est ailleurs. Mais Dieu m'a appelé pour une vision, pour quelque chose de spécifique. Alors, il y a trois possibilités de faire avancer les choses. La première, j'adhère à la vision, même si je ne comprends pas tout, certains sont venus me voir. Antoine, je ne comprends pas vraiment, mais je te fais confiance parce que je sais que Dieu est avec toi. D'accord, quelquefois on s'est fait avoir. Adhérer à la vision, rester indifférent. Ça va, l'indifférence, ça vous dit quelque chose, l'indifférence? Ah ben, on verra, je suis indifférent. Ou d'être critique. Attention, hein. La statistique dit que... il y a 20% de chrétiens partout. Vous, aujourd'hui, vous écoutez les séminaires, les réunions, les pasteurs, l'enseignement par Internet. Et tout le monde dit que normalement, il y a 20% toujours d'églises qui ne suit pas, qui est opposée, qui est critique. 20%. Faites pas partie de ces 20%. Donc, c'est celui qui adhère à la vision, qu'est-ce qu'il fait? participe aux concentrations de tous les efforts par les moyens d'un objectif. Peut-être tu es responsable d'un objectif, comme au niveau de la louange, au niveau de la jeunesse, les enfants. Voilà, il y a des responsabilités. Il y a plusieurs personnes qui mènent des actions, même des choses pratiques. Voilà, même donner à boire, bah, il faut quelqu'un qui puisse être leader de ça. Quelqu'un pour organiser le nettoyage, bah, il faut que quelqu'un puisse guider ça. Vous comprenez, c'est tout est important. Donc, j'adhère et je participe aux concentrations, d'accord ? Pas à la dispersion, mais aux concentrations de tous les efforts par les moyens de ces objectifs. Là, je vous présente 5 objectifs. Alors, l'indifférence, et tout ça, au fur et à mesure, on va détailler, hein. Ce sont juste un exposé aujourd'hui pour que vous puissiez un peu savoir comment on va travailler pendant quelques dimanches. Indifférence, c'est comme si tu montais dans un avion sans destination. Si tu veux rester indifférent, tu es comme celui qui rentre dans un avion sans la destination. Ça vous intéresse? Non. Alors, critique, c'est la destruction. Celui qui critique détruit l'œuvre de Dieu. Si je critique moi, je suis concerné. Si ça commence là, si j'ai une pensée, si je vais te critiquer, si je vais penser mal à ton sujet, d'accord, ça me conduit dans une division, d'accord, une division. Voilà, c'est la destruction, ce que la Bible nous dit. Tous ces médisances, les critiques, tout ça, c'est dire n'importe quoi, les jugements, tout ça, ça détruit l'œuvre de Dieu. Alors, comment ne pas devenir critiqué? Ben, il faut ou adhérer, ou si tu ne comprends pas, va voir la personne concernée. Je suis en face de beaucoup de choses ou quelquefois dans d'autres actions inter-église, dans mon union, etc., où on est quelquefois à plusieurs personnes. Et chaque fois, je dis, je suis vraiment pas d'accord avec la façon que la personne veut faire les choses, mais je lui ai confié la responsabilité, je lui fais confiance. Et je m'interdis de critiquer, de dire des choses parce qu'il n'est pas parfait, mais je ne suis pas parfait. Je vais soutenir ce qui est positif parce que l'ennemi veut nous détruire. Mais ensemble, nous pouvons réussir. Même si nous réussirons 6/10, nous sommes gagnants. Amen. D'accord? Si c'est 4/10, on est perdant. Je répète, j'adhère, je reste indifférent. Je suis dans un avion sans, ou dans un bus sans la direction, ou je suis critique, mais ça ne nous intéresse pas. D'accord? On est bien d'accord. On va refuser tout ça. Et chaque fois, j'ai beaucoup d'opposition par-ci, par-là, et c'est mon combat, souvent. Je dis, Seigneur, je m'interdis de penser voilà, mal ou critiquer, ou être critique. Voilà. Alors, je vais vous donner un témoignage au niveau de la vision. Ça tombe bien, ce matin. Depuis un certain temps, on parle de... Voilà, parce que ça fait partie de la vision de l'Église. Si cette Église est là, c'est parce que ça a permis de sauver pas mal de gens, de personnes déjà, on est d'accord ? Même s'il y a encore de la place. Ah ben, c'est bien, on est prêt. Parce que quand les gens vont venir, nous avons la place. Nous parlons d'Arras maintenant. Arras, actuellement d'Arras. J'aimerais que vous soyez au courant. Parce que ça se prépare. J'avais une idée, j'avais une pensée. Ça va, Karine? Qu'est-ce que tu es joyeuse, hein? C'est bien comme ça. Hein? Et donc, j'avais une idée. Ça s'est pas fait comme ça. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis les uns parlent comme ça, d'autres comme ça. Non, toi, tu as encore beaucoup de place ici, pourquoi parler d'une église à Arras? Mais à Arras, il y a déjà une église. On est déjà là. Je pense déjà plus loin. Ça vous choque? Alors, on m'a posé la question, quelqu'un m'a posé la question à la maison. Mais comment tu fais, comment on peut comprendre qu'implanter une église, c'est quoi? Et juste avant, juste après cette question, c'était après, je reçois un courrier. Et l'église de Rotterdam, nos amis qui nous ont aidés beaucoup ici, beaucoup, 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 80% des travaux ici, c'était fait par l'église de Rotterdam. Et l'église de Rotterdam dit, nous avons la vision pour la France, nous voulons vous aider, nous voulons participer avec vous, et nous donnons 400 euros par mois pendant un an pour l'implantation de l'église à Arras. Et j'ai dit à la personne qui m'a posé la question, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont l'inconnu. C'est donc qu'est-ce que tu veux? Nous, les hommes d'affaires, j'ai une fibre d'homme d'affaires, j'ai une fibre. Moi, si je n'étais pas pasteur, j'aurais été patron. Voilà, parce que j'aimais ça, je réussissais, je gagnais aussi bien ma vie. C'est tout, mais ben, Dieu voulait que je sois... C'est lui qui prêche l'évangile, qui réunit les chrétiens. Et puis, j'ai accepté. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Toujours à Arras. J'ai dit, vous voyez, tu vois comment ça se passe? Voilà, il y a les éléments qui se mettent en place. Parce que c'est la vision de l'Église. D'accord? Vous avez compris? Et puis, il y a déjà les promesses des finances. Il y a déjà des gens. Regardez à Virginie là-bas. Virginie là-bas. Lève-toi, Virginie. C'est juste pour vous dire comment Dieu fait les choses. Elle vient dimanche passé ici. Et elle m'a dit, j'ai déménagé là-bas, puis je vais habiter à Arras. Et quand j'ai entendu parler que vous allez ouvrir une église d'Arras, ben, je suis la première. C'est ça. Hein, elle va même déménager, elle aura un appartement, on peut commencer des petites réunions chez elle. Mais nous avons déjà 400 euros par mois. Et puis, quelqu'un qui a déposé la question dans un hôtel. Ah non, l'hôtel. Mais ici, cette église a démarré à l'homme dans un hôtel. Tu te souviens, Denis et Françoise? C'était comme ça, hein? Voilà, nous allons commencer certainement à l'hôtel. Alors, mes amis, tu veux adhérer? Tu veux être indifférent ou tu veux être critique? On est libre, hein? Mais vous savez ce qui va se passer? Et un jour, à Lançois, on dit à Rajoin, non? Un Arajoin qui viendra, qui va être sauvé, hein? Il va être sauvé. Et il te viendra, merci, merci. Et tu vas lui dire, mais pourquoi? Ben oui, mais parce que toi, tu as soutenu, ton église a soutenu, tu participais, hein? Tu as donné 2-3 euros. Pour l'implantation de la nouvelle église à Arras. Et moi, par les billets de cette église, j'étais sauvé. Et je suis venu pour te dire merci, André. Tu as vraiment dit oui, tu as adhéré. Oh. Regardez Abigail. Elle est là, une belle jeune fille. Belle jeune fille. Il y a 2 ans, je pense, elle est venue me voir à Waterloo, hein, c'est ça. Est-ce que vous savez qui suis-je? C'était ça, hein? Je ne vais jamais vous dire. Ben, j'ai dit non, explique-moi, dis-moi. Elle m'a expliqué. Oh là là, elle courait ici, là, elle faisait l'école des dimanches. Puis ses parents, voilà, ils sont partis pendant un moment. Pas du tout méchamment, c'est pas ça que je vais dire. Et le Seigneur m'a dit, ah, Abigail et Simon, un beau couple. Mais ils vont ramener des gens. Les parents, ils viennent déjà assez souvent. Hein. Elle a ramené son grand-père qui venait avant. Il y a tout un réseau de personnes qui sont là. Parce que le Seigneur se sert de nous pour gagner les hommes et les femmes et qu'il amène tous ces gens-là au royaume de Dieu. Je vous ai partagé aussi. Est-ce que Laura et Fabrice sont là? Brice! Regardez. Ils sont là, ils se sont mariés ici, baptisés, etc., etc. Je passe tous les détails. Mais une fois, Brice me téléphone. Il était toujours transparent avec moi. Je passe les détails. Plus tard, deuxième fois, et il m'a dit, voilà. Donc, c'était la destruction, c'est fini. Et je leur ai dit, venez à la maison. Nous allons discuter. Vous comprenez? Nous sommes là pour servir. Nous avons discuté en 10 minutes. Les forteresses sont tombées. Mais il fallait les accompagner. Vous savez ce que j'ai fait? Je ne vous dis pas pour vous dire, vous voyez ce que je fais, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des moments où il faut le faire. Alors j'ai dit, Brice et Laura, vous venez à la maison et vous allez habiter avec nous. Et vous êtes resté combien de temps? 2 mois? 2 mois. 2 mois à la maison. C'est long, hein? Voilà le service, un objectif. Nous sommes tous concernés. Accompagner, travail pastoral, le suivi, encouragement. Est-ce que vous êtes heureux maintenant? Vous pouvez dire 2-3 mots là? Allez. Ils ne sont pas prêts. Mais je pense qu'il faut dire ce que Dieu fait. On pense que Dieu fait les choses en Afrique, en Amérique. Mais il y a des miracles parmi vous.
Bonjour à tous. C'est une joie, finalement, de vous partager ce que j'ai vécu, parce que c'est vrai que j'en ai peut-être pas forcément parlé à tout le monde. Vu que j'étais enceinte et donc j'ai été beaucoup malade, donc je suis partie chez Christiane et Antoine. Et vraiment, je peux vous dire, c'est la maison du bonheur là-bas. C'est la maison bénie, c'est la maison de la joie, c'est la maison où on ressent le Seigneur. Et de cette expérience chez eux, j'ai une vision en fait. J'ai une vision pour ma famille, pour ma petite fille. Je me dis moi je vais être comme ça pour Léna, je vais être comme ça pour Brice, et je veux avancer dans cette direction. Et quand je voyais Christiane, quand je voyais Antoine, je voyais ce merveilleux couple, je me disais mais je veux ça dans ma vie. Quand je voyais les enfants, quand je voyais Or qui le respect qu'elle avait envers ses parents, le respect qu'elle avait envers ses frères et sœurs, j'ai dit je veux ça aussi. Et ça m'a donné la joie dans mon cœur, et je me dis merci Seigneur, parce que jusqu'à présent j'avais pas cette vision là. Je priais, j'avançais avec le Seigneur, mais il manquait ce quelque chose. Et c'est pour ça, mettez dans votre cœur une vision. C'est très très important. C'est comme ça que ça vous permet d'avancer. C'est-à-dire ça vous permet de voir le Seigneur à travers les personnes, à travers vous. Et vraiment, je remercie de tout mon cœur le Seigneur, parce que jusqu'à présent, je pense que j'ai jamais autant remercié Christiane pour tout ce qu'elle a fait dans ma vie. Merci pour Antoine, parce que j'ai été complètement heureuse. Et depuis ce temps-là, je suis épanouie. Je peux vous le dire, je pleure, mais je pleure de joie. Parce que je suis bouleversée par ce qu'ils ont fait. Et je vois que le Seigneur, il met sur nos chemins des personnes vraiment très, très, très précieuses. Et il m'a donné la vision de l'amour. Et je peux vous dire aussi que je vous aime tous. Amen.
Voilà. L'objectif, c'était pas du tout qu'elle parle de nous, mais voilà, nous sommes là, c'est l'Église. Si j'ai fait ça, c'est parce que vous êtes là, parce que nous, on est ensemble. Et un jour, au ciel, elle vous dira merci, parce que c'est l'Église qui a porté, par les billets d'un autre, la bénédiction, et puis on sera dans le royaume de Dieu. Jacqueline, est-ce que tu veux venir, Jacqueline Blanchon? Est-ce qu'elle est là? Viens, viens, viens là. Viens, viens, viens. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses qui se font. Dieu est là. Parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a des objectifs, même si tout n'est pas clair. Mais on va travailler tout ça, on va développer, il y a des choses qui bougent. Alors Jacqueline, tu étais un peu triste une fois là, à Waterloo. Tu devais passer par des voilà, etc., etc. Et puis il y avait quelque chose. Dis un peu deux, trois mots. Là.
Oui, c'est vrai. Bonjour à tous. Et c'est vrai que j'ai dû passer par un ophtalmo. Et la première visite que j'ai passée, c'était encore assez important. C'est-à-dire que je pouvais avoir à ce moment-là la rétine qui se décollait. Et puis après, bon, ben, au jour, enfin au mois qui suivait, j'ai repassé une visite. Et l'ophtalmo n'était pas encore trop sûre d'elle-même. Donc elle a demandé après sa collègue. Sa collègue, elle est venue. Elle a donc repassé une autre visite. Et merci Seigneur. Enfin, d'ailleurs, je rends gloire au Seigneur parce que je n'ai pas dû passer des rayons. Donc déjà, c'était une grande chose. Et bon, les mois passent. J'ai repassé une visite. Et alors là, vraiment, le Seigneur a fait des grandes choses parce que le jour du baptême de Laurent et Karine, et il y avait donc son beau-père et puis enfin, le papa de Karine. Et ce jour-là, il y a un frère, donc je ne sais pas si je peux dire le nom, c'est notre frère Frédéric Poliken, qui est là-bas. Il a prié pour moi. Et ce jour-là, j'ai senti quelque chose dans mon œil gauche, quelque chose qui partait. Alors, comme j'avais confiance en mon Dieu, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Merci Seigneur. Et j'ai repassé une visite à l'ophtalmo. Et là, il n'y a plus rien. Plus rien. Tout est parti. Il y a encore des petites choses qui doivent encore partir, mais il n'y a plus rien de grave. C'est fini. Alors, je rends gloire au Seigneur, je remercie le Seigneur et je remercie aussi les personnes qui ont prié pour moi. Gloire à Dieu. Amen.
Voilà, certainement, il y a d'autres témoignages. Ça sera pour la prochaine fois. Hein, voilà. Mais juste pour faire la conclusion, Paul, l'apôtre Paul, lui, il était conscient de tout ça, la vision, la concentration de nos forces, de nos efforts, etc. Il y avait des miracles, des prodiges, Dieu est le même aujourd'hui. Et Paul, il vivait dans tout ça. Donc Paul était conscient de cela, il disait « Je mets toute mon énergie à courir en avant, je mets toute mon énergie à courir en avant, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. » Tout le monde court, on oublie ce qui est derrière. On oublie ce qui est derrière. Oublie ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est d'où vient ma devise depuis le début. Ici, dernièrement, j'ai un peu arrêté, mais il y avait un moment quand j'ai parlé avec les uns les autres, je disais, en avant, Georges, en avant. Il y avait un message. Ah ben, à nouveau, je vais vous fatiguer avec ça. Je vais vous dire, en avant, je découvre l'expression où ? Dans la Bible. Claudio, en avant ! Dites les uns aux autres, en avant, mon ami. Ne t'arrête pas. Concentre tes forces. Et tu verras de miracles. J'ai pas fini l'histoire de la race. Regardez Marc et Emeline. C'est bien? Emeline. Regardez, ils sont à Arras. Il était à Marseille ou là-bas, quelque part dans le sud. Hein. Et puis quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est un homme de Dieu. J'ai rien dit. Après, j'ai entendu par Mathieu, ah, mon frère va venir habiter ici dans le nord. Et puis tout à coup, ils habitent à Arras. Son épouse, elle prend le baptême. Regardez là-bas, un couple formidable. C'est Renald et Jamima. Ah, ils m'ont dit, Antoine, nous sommes prêts maintenant à faire tout ce que tu nous demandes. Alors, l'église à Arras, c'est déjà fait. Ne venez pas me dire, Antoine, pourquoi, quoi. Adhérez. Soutenez l'œuvre de Dieu. Quelqu'un viendra vous dire une fois au ciel, merci, parce que tu as soutenu. Amen. Amen. On va se lever ensemble. Et avec Aurélie, donc, et puis l'équipe de louanges va terminer vraiment dans la joie. Si vous voulez bien, on va se réunir devant ici. Bougez, vous êtes resté trois quarts d'heure presque assis là. Si on peut se réunir là, puis ils vont nous mener, proposer un chant vivant, dynamique, pour terminer comme une fête. Voilà, gardez l'expression, la vision, les objectifs, la concentration et en avant.